Le journal, bonjour Hélène Roussel.
Bonjour.
À la une ce matin, la malédiction Thibaut Pinot. Le Français passe son tour, encore une fois, à 19 minutes derrière les favoris et dans la douleur. Il ne sera pas en jaune cette année. L'échec de trop, le Français parle d'un tournant dans sa carrière. Vous l'entendrez. Dans le reste de l'actualité, Hélène.
Les masques partout, quasi tout le temps. La préfecture des Bouches-du-Rhône élargit encore le périmètre et les horaires. Le Conseil d'État dira lui ce soir ou demain si les arrêtés pris à Lyon ou à Strasbourg vont trop loin. La mort d'Antoine Ruffnac, hier une page d'histoire de la droite qui se tourne. Et puis un air de croisette à Deauville, le festival accueille 9 films qui n'ont pas pu être présentés à Cannes. Hier, c'était le coréen Peninsula.
Notre invité à partir de 8h20, ce sera l'historien Patrick Veil, co-auteur du livre Georges Clemenceau, Lettres d'Amérique, paru aux éditions Passé Composé.
France Inter. C'était lui le plus proche pour succéder à Bernard Hinault. 35 ans après, ce ne sera pas encore pour cette année. Thibaut Pinot s'écroule dès la première étape de haute montagne hier à l'assaut des Pyrénées. Pourtant très attendu cette année pour prendre sa revanche. 4 abandons sur 8, Tour de France au compteur, c'est donc encore raté. Avec 19 minutes de retard sur le groupe des favoris, Thibaut Pinot voit tous ses espoirs de terminer en jaune douché. Pas de larmes hier à l'arrivée, mais de la fatigue, de la douleur, un côté blasé aussi.
J'ai tellement mal au dos, j'ai pas de force, j'arrive pas à pédaler. Donc voilà, c'est comme ça. Je vais pas quitter le tour, en aucun cas j'ai eu cette idée, mais voilà, c'est une journée compliquée. Je vais juste m'excuser auprès de mes équipiers, à ceux qui me supportent, parce que ça fait beaucoup d'échecs pour tout le monde, pour l'équipe, pour moi, pour beaucoup de gens. Et voilà, peut-être aujourd'hui c'est peut-être un tournant dans ma carrière. C'est trop d'échecs pour moi, je suis pas. J'ai toujours dit que le vélo c'était se battre, prendre du plaisir, gagner des courses et. C'est trop d'échecs pour moi en ce moment.
Un tournant vers quoi? Voilà Thibaut Pinot qui assure finir le tour, mais qui parle aussi comme un coureur en fin de carrière. Peut-être l'échec de trop. En attendant, c'est un Français qui remporte la 8e étape, Nance Peeters. Le Britannique Adam Yates, toujours en jaune. Et la suite dans les Pyrénées, coriace aujourd'hui. 2 cols de première catégorie, 153 km entre Pau et Larance. Départ à 12h30. Et puis le sport, c'est aussi le retour de l'équipe de France. Hier soir, premier match en 10 mois. Ligue des Nations, score 1-0 face à la Suède. But d'Mbappé dans un match plutôt poussif.
Le masque obligatoire partout dans les Bouches-du-Rhône.
Dans tout le département, y compris dans les tout petits villages, il faudra porter le masque dans les rues de 6h à 2h du matin. La préfecture vient d'élargir les horaires et le périmètre. Georges Christiani, président de l'Association des maires de France dans le département et maire de la petite commune de Mimet, s'incline.
Dans les villages, cette mesure n'est pas très adaptée. Mais comment doit-on faire lorsqu'on est au niveau national, que le pays est dans une situation délicate? On est dans cette situation où il faut à un moment donné prendre des décisions. Jusqu'à présent, on a tellement eu d'ordre et de contre-ordre. Si une fois pour toutes, on a un ordre, une directive, même si c'est exagéré, en tout cas ce que je pense pour les villages et pour les petites communes, à un moment donné, je pense que la France ne peut plus rester dans un confinement. Je sais que c'est contraignant, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est inadapté à certains petits villages. Mais je crois qu'à un moment donné, plutôt que le confinement, je préfère porter un masque.
Les Bouches-du-Rhône qui, dans le même temps, repoussent l'heure de fermeture des bars et des restaurants de 23h à 12h30. Le masque partout, 24-24, est-ce abusé? La question est posée. En tout cas, les tribunaux administratifs ont retoqué cette semaine les arrêtés pris à Lyon, Villeurbanne et Strasbourg. L'État a fait appel. L'audience devant le Conseil d'État, c'est ce matin à 11h. La réponse est attendue ce soir ou au plus tard demain. Assouplissement aussi en vue pour la durée d'isolement imposé aux personnes malades et à leurs proches. Le gouvernement devrait revenir sur la 14aine et passer à 7 jours. Avis du conseil scientifique que le ministre de la Santé devrait suivre selon le journal du dimanche. Le gouvernement qui annonce par ailleurs la fabrication de près de 100 000 masques transparents. Des masques qui seront distribués d'ici la fin du mois aux professeurs qui ont un élève malentendant, mais aussi à tous les enseignants de maternelle. Vous entendrez la secrétaire d'État Sophie Cluzel dans le journal de 7h30. Enfin, côté chiffres, un peu moins de 9 000 cas de Covid dans 24 heures hier, peu ou prou, pareil que la veille. Le nombre d'hospitalisations reste faible et stable. Le Covid et une rentrée scolaire des plus précaires. Nous sommes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Des millions de Palestiniens reprennent le chemin de l'école aujourd'hui. Reportage à Ramallah avec Alice Froussard.
Depuis le mois de mars, les cours se faisaient à la maison. Un casse-tête quotidien, une organisation double. Alors, quand la rentrée a été décidée, Eyad Staïti, palestinien de Ramallah, n'a pas hésité une seconde. Ses filles retourneront à l'école.
C'est important pour elles et elles ont hâte. Elles veulent aller à l'école. On ne peut pas rester à la maison éternellement. Et ma famille est jeune, on ne devrait pas avoir de problème. Mais je peux comprendre que ceux qui vivent avec leurs parents, grands-parents, des personnes âgées, aient peur de les perdre à cause du coronavirus.
Tout est prévu, masque pour tout le monde, distance obligatoire et une rentrée en décalé. CP au CM1 ce dimanche, collégiens et lycéens dans deux semaines si le virus ne se propage pas. Mais pour les professeurs, la rentrée a un goût particulier. Mariana Akram, 37 ans, est professeure de sciences à Doura, à côté d'Hébron, au sud de la Cisjordanie. Pour elle, c'est le double de travail, les classes étant divisées par deux, les enseignants trop peu nombreux. Et son salaire tarde encore à être payé par l'autorité palestinienne, trop endettée.
On a seulement la moitié du salaire qu'on a d'habitude. C'est vraiment difficile.
Sans compter le manque de matériel et la canicule qui rendra difficile le port du masque pour les élèves, la rentrée s'annonce compliquée. Ramallah, Alice Froussard, France Inter.
Deux soldats français du 1er régiment parachutiste de Tarbes tués au Mali hier. Leur blindé a sauté sur un engin explosif à Tessalit dans le nord-est. Emmanuel Macron a salué hier soir le courage des soldats au Sahel et appelle à une transition politique sans délai. Et puis en bref encore, l'Allemagne qui préside l'Europe montre les muscles. Si Moscou ne donne pas plus d'explications sur l'empoisonnement de l'opposant Navalny dans les jours qui viennent, il pourrait y avoir des sanctions.
La rentrée politique gâchée pour les LR.
Réunis au Port-Marly, dans les Yvelines, la droite souffre. Entre l'appel de certains à soutenir Emmanuel Macron en 2022 et le silence toujours de François Baroin sur son éventuelle candidature, le maire de Troyes, plus prolixe en revanche hier pour rendre hommage à celui qui incarne toute une page d'histoire de la droite, l'ancien maire du Havre, Antoine Ruffnac, figure chiracienne, mentor d'Édouard Philippe, est mort hier. Il avait 81 ans, son portrait avec Théophile Pedrola.
Antoine Ruffnac naît en 1939 au Havre. Après trois échecs, il conquiert la ville aux mains des communistes en 1995. Il reste pendant 15 ans dans le fauteuil de maire, 15 années pendant lesquelles il transforme la ville avec de nouveaux quartiers, un tramway, un stade. Son centre-ville est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. Avant, Antoine Ruffnac avait été président de la région Haute-Normandie pendant 5 ans, député pendant 9 ans. Proche de Jacques Chirac, il a été son directeur de campagne lors de la présidentielle de 2002. Emmanuel Macron parle d'un homme de conviction qui a transformé sa ville comme nul autre. Édouard Philippe, lui, parle d'un seigneur et d'un maître. C'est lui qui avait reçu le flambeau de maire du Havre en 2010 quand Antoine Ruffnac démissionnait pour assurer en douceur la transition à la mairie.
De la politique à l'éthique, gros malaise au sein de la rédaction d'Europe 1 qui a appris hier la nomination de Louis de Raguenel, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, au poste de chef du service politique de la station. Comment accepter le choix d'un homme qui a œuvré pendant des années à la ligne ultra-conservatrice d'un magazine et au passé de militant proche de Nicolas Sarkozy? La société des rédacteurs ainsi que le syndicat SNJ disent leur colère et leur inquiétude dans leur tract hier. Deauville sauve sa peau et un peu celle de Cannes aussi. Quand le cinéma se la joue solidaire par temps de Covid, le Festival du film américain projette 9 films sur les 56 qui n'ont pas pu être présentés sur la croisette cette année. Reportage de France Bleu Haute-Normandie avec Nolwenn Lejeune.
Quel plaisir de vous avoir si nombreux dans une salle de cinéma.
C'est devant un millier de spectateurs au Centre international de Deauville que Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, vient lancer le premier film de la sélection cannoise. Tout un symbole après l'annulation de l'édition 2020.
Tous ensemble pour partager les émotions et le monde sur un grand écran. C'est né le 28 décembre 1895, il y a 125 ans, et c'est pas prêt de s'arrêter.
Alors du spectacle sur grand écran avec ce film coréen Peninsula, le public d'Auvillé en a pris plein les yeux. Une histoire de zombies sur fond de virus échappé d'un laboratoire. Bonjour l'ambiance en plein Covid, pourtant à la sortie tout le monde en redemande.
Très très bon film, le Mad Max coréen.
Parce que ça traite de notre avenir et de la manière dont on peut vivre ensemble.
C'est pas très rassurant.
Et comment on se détruit.
C'était quand même une vraie expérience cinématographique. Ça fait plaisir, ça, on a l'impression qu'on rattrape un peu le temps perdu.
Le cinéma est loin d'être mort, quoi. Donc c'était bien de le rappeler, puis c'était bien de montrer ces films-là, dans ce contexte-là.
Sortie en salle prévue le 21 octobre prochain.
En bref, pour finir, la case garde à vue pour le rappeur Ademo, l'un des deux frères du groupe PNL, au commissariat du 14e arrondissement de Paris depuis hier, pour usage de stupéfiants, outrage et rébellion. Et puis à propos de stupéfiants, voilà qu'il pleut du cannabis sur Tel Aviv en Israël. Des centaines de sachets tombés du ciel cette semaine, distribués par un mystérieux drone, deux personnes interpellées. Mais le groupe Drone Vert promet déjà sur la messagerie Telegram une autre pluie de cannabis, une fois par semaine. C'est sans doute ça qu'on appelle planer.
Faites tourner la page, bien sûr, pour refermer le journal d'Hélène Roussel.